BW. Magazine Santé.
Une maladie chronique caractérisée par la survenue de crises qui traduisent un dérèglement soudain et transitoire de l'activité électrique du cerveau. Vous l'aurez compris, dans ce numéro de Capsule Santé, nous allons parler de l'épilepsie, ses causes, conséquences, la prise en charge, mais aussi le rôle et l'importance de l'entourage. Vous écoutez Capsule Santé, Carole Assignon au micro. Bonjour à toutes et à tous. Secousses musculaires incontrôlées, fourmillements, picotements ou sensations anormales, troubles du langage, douleurs, perte de connaissance. La liste des symptômes d'une crise d'épilepsie est longue car la maladie peut se présenter sous différentes formes, ce qui rend souvent le diagnostic délicat à poser. Comment soutenir les personnes qui vivent avec l'épilepsie? Que faire en cas de crise et comment vivre avec la maladie? On parle de tout cela avec Marie Zarend de l'Association d'aide aux personnes épileptiques, une organisation de bénévoles basée au Luxembourg qui informe sur les épilepsies et qui défend les droits des personnes atteintes d'épilepsie. Elle commence d'abord par expliquer les causes de la maladie.
Maintenant, on parle beaucoup de causes génétiques, mais souvent, ça ne veut pas dire que c'est une maladie héritée des parents, mais c'est plutôt une maladie qui s'est faite par un changement au niveau des gènes. Et puis, il y a toutes les causes résultant d'accidents, c'est-à-dire un traumatisme grave du crâne. Et puis, il y a toujours des épilepsies où on ne sait pas exactement quelle est la cause. Ça peut être un manque d'oxygène à un certain moment, ça peut être un AVC, mais il y a toujours aussi des épilepsies où on ne trouve pas d'explication.
Qui dit épilepsie dit crise, hein, des crises qui se déroulent de différentes façons. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces crises?
D'abord, souvent, on parle des épilepsies pour montrer par le mot qu'il n'y a pas une seule forme d'épilepsie. Donc, il y a les crises les plus spectaculaires, c'est les crises tonico-cloniques où la personne a des convulsions où tout le corps est impliqué. Mais il y a également des crises partielles où il y a juste un membre qui fait, par exemple, des secousses ou également des absences où la personne ne répond pas vraiment, ou des crises où la personne commence à bouger, mais sans vraiment un but précis, ou commence à faire des gestes répétitifs.
Quand on est à proximité d'une personne qui fait une crise d'épilepsie, quels sont les gestes à adopter? Comment aider cette personne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment réagir?
Si la personne fait une grande crise, donc si on arrive à la rattraper pour qu'elle ne tombe pas et ne se blesse pas, sinon si elle est déjà par terre, ne pas la restreindre, ne mettre rien dans la bouche, parce que ça c'est encore des informations qui existent, qu'il faudrait bloquer la langue, non il faut rien faire, juste rester près de la personne, également une personne qui fait une absence ou qui commence à bouger, rester près de la personne, la rassurer et attendre qu'elle reprend conscience et que son état est de nouveau normal, c'est-à-dire que la crise a cessé. Normalement, ça dure moins de 3 ou 4 minutes. Si la crise ne s'arrêterait pas après 3 ou 4 minutes, là, il faut appeler les secours.
Est-ce que quand on souffre d'épilepsie, on a plus de risques d'avoir davantage de problèmes de santé? Par exemple, au moment d'une crise, on peut avoir une chute ou avoir une fracture, par exemple, ou avoir un choc. Est-ce qu'il y a plus de risques?
Ben oui, avec une crise de grand mal, si on tombe, on peut se blesser, pas forcément à cause de la crise, mais par la chute. Et donc ça aussi peut être une raison pour aller voir aux urgences si on a eu un traumatisme ou s'il y a une plaie à recoudre.
Est-ce que les personnes qui souffrent d'épilepsie sont aussi plus à risque d'avoir, de faire de la dépression, par exemple?
Ah oui, ça arrive parce que d'un côté, c'est-à-dire leur situation de vie est changée beaucoup par le fait d'avoir des crises d'épilepsie. Même si les crises d'épilepsie sont assez rares, ça veut dire qu'on ne peut peut-être pas arriver au bout de ses projets au niveau du travail, ou qu'on a tout simplement peur d'avoir une crise au mauvais moment, au mauvais endroit. Ça veut dire qu'on va restreindre sa vie sociale. Tout ça peut amener de la dépression. Et d'un autre côté, il y a des médicaments assez forts qui agissent sur les neurones au cerveau pour supprimer les crises ou pour les réduire. Et ça aussi peut induire des dépressions secondaires.
Alors, on va parler tout à l'heure de la prise en charge. Mais avant, puisqu'on parle maintenant des crises, est-ce qu'une personne épileptique peut sentir, prévoir, savoir qu'elle va faire une crise, ou est-ce que c'est quelque chose qui survient brutalement?
Pour certaines personnes, ça survient brutalement. D'autres, lorsqu'ils sont très attentifs aux signaux de leur corps, peuvent enregistrer des signaux prédicteurs, et ça leur permet alors de se mettre à l'abri ou de prévoir une journée plus reposante, peut-être aussi pour éviter une crise.
Et comme quoi, par exemple, comme signe, qu'est-ce qu'on peut ressentir?
On se peut sentir tout simplement pas bien en forme, ou on peut également avoir des sensations olfactives ou auditives ou visuelles qui annoncent une crise. Ça dépend aussi de quelle partie du cerveau la crise va partir.
On a donc parlé des causes, des symptômes. Parlons maintenant de la prise en charge. Comment ça se passe? Est-ce que c'est au cas par cas?
Souvent, c'est au cas par cas. C'est-à-dire, il y a des gens qui d'abord vont voir leur généraliste. Puis c'est une bonne idée d'aller voir un neurologue, et si le médicament que le neurologue prescrit n'agit pas en supprimant les crises, il est tout à fait indiqué de se faire envoyer vers un centre spécialisé en épileptologie qui a quand même plus de moyens pour faire un diagnostic et également vraiment adapter la médication de telle façon que les médicaments sont efficaces sans trop justement supprimer l'activité du cerveau, donc pour que la personne reste quand même active et réactive.
Et puisque vous parlez du diagnostic, comment ça se passe une séance? Comment est-ce qu'on arrive à déterminer qu'une personne souffre d'épilepsie?
Pour certaines personnes, on peut détecter dans les électroencéphalogrammes des ondes qui sont atypiques. Pour certaines, c'est la description de la crise par des proches, parce que la personne, dans la plupart des cas, elle ne vit pas comme observateur sa crise, donc elle ne sait pas ce qui s'est passé.
Alors, l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse, hein. Pourtant, il y a beaucoup
Non, pas du tout.
Pourtant, il y a beaucoup de préjugés, de croyances, de discrimination, de stigmatisation qui entourent cette maladie. Comment l'expliquer?
Je crois que ça, c'est quelque chose qui nous vient du Moyen-Âge, où on croyait que les personnes étaient possédées par le diable. Mais c'est une maladie neurologique et rien d'autre. Pour environ 70% des personnes, sont bien soignés avec un médicament et ça ne se voit pas. Ils ont quand même les inconvénients et les effets secondaires des médicaments, mais ils peuvent avoir une vie absolument normale. Pour les autres qui continuent à faire des crises, il faut continuer à chercher la bonne médication.
À l'Association d'aide aux personnes épileptiques, vous efforcez d'informer sur la maladie, mais aussi de soutenir les personnes touchées, leur entourage. Comment ça se passe au sein de votre organisation?
Les gens nous contactent, soit par mail, soit par téléphone. Soit elles trouvent déjà sur notre site web les informations qu'il faut, soit on leur propose de se rencontrer chez eux s'ils ont des difficultés de se déplacer, si c'est des parents de jeunes enfants, soit chez nous, pour parler en détail de leur crise, comment ils ressentent ça, de quelles informations elles ont encore besoin, toutes les questions qui se posent à certains stades de la vie.
Et le rôle de l'entourage, est-ce que c'est quelque chose de très important, surtout pendant les crises?
Oui, c'est bien que l'entourage est informé pour, par exemple, à l'école, pour savoir ce qu'il faut faire, ou plutôt ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire ne rien rentrer dans la bouche, ne pas contenir la personne, donc laisser aux confusions leur libre mouvement, mais les rassurer, rester près d'eux, leur laisser le temps après pour se reposer et éventuellement encore reporter ce qui s'est passé pendant la crise, et éventuellement également appeler les secours. Et donc, si les personnes ne sont pas informées, ils informent peut-être les ambulances trop tôt et il y a un déplacement à l'hôpital qui ne sera pas nécessaire si la crise s'arrête après une ou deux minutes. Donc, d'autant plus que tout le monde est informé sur l'épilepsie. Donc, ça fait diminuer les stigmas et donc ça vaut alors une meilleure intégration des personnes avec une épilepsie également dans la vie sociale et également sur le marché de l'emploi.
C'est également important de connaître un peu les statistiques, c'est-à-dire sur 100 personnes, il y a une personne environ qui a de l'épilepsie. Et sur 10 personnes, il y a une personne qui va faire une crise épileptique à un certain moment de sa vie sans être diagnostiquée épilepsie juste parce que il y a eu un court-circuit au niveau du cerveau, par exemple par un surmenage, mais ce qui ne va pas engendrer une épilepsie par la suite.
Capsule Santé, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à Marie Zaren de l'Association d'aide aux personnes épileptiques basée au Luxembourg pour ses explications au sujet de l'épilepsie. Merci à vous pour l'écoute. D'ici au prochain numéro, rendez-vous sur nos différentes plateformes pour écouter le podcast de l'émission. Just make the call, you're not alone. Call for help when you need a friend. Call for help when you're down again. You call for help every now and then. You need some help. You call for help when you're feeling blue. You call for help and I'll pull you through. You call for help, all you got to do is call for help. Call for help.